Bonjour tout le monde et bon réveil. Tête chercheuse tous les samedis matins cet été sur France Culture pour écouter les spécialistes que nous avons invités durant la saison dernière dans Un autre jour est possible. Et en hiver, alors que Palmyre était encore sous le contrôle de l'État islamique, alors que le site était saccagé, Annie Sartforia, spécialiste de Palmyre, qui connaît Palmyre depuis une quarantaine d'années, était venue nous raconter l'histoire de cette ville. La Venise des sables, la perle du désert, mais aujourd'hui, c'est plutôt un champ de ruines. Est-ce qu'on peut le dire d'ailleurs que c'est un champ de ruines ?
Alors, c'est pas complètement un champ de ruines parce qu'il reste encore, fort heureusement, quelques monuments debout à Palmyre, mais c'est vrai que le site a été profondément abîmé par les destructions perpétrées par Daesh après leur entrée dans le site. Donc, aujourd'hui, on peut compter plusieurs bâtiments totalement détruits, pulvérisés, réduits à l'état de gravats. En l'occurrence, deux des plus beaux temples du site, le temple de Baal Jamin qui a été le premier détruit, le temple de Bel qui a suivi dans la semaine après, et qui étaient des temples encore debout. C'était des emblèmes en quelque sorte du site. On venait à Palmyre pour voir le coucher de soleil, le lever de soleil sur le temple de Bel. C'était véritablement un des joyaux du site. Ces deux temples ont été totalement soufflés par des explosions et il ne reste que des gravats. Le temple de Bel, il ne reste plus que la porte d'entrée du temple, les deux montants et la partie supérieure de la porte, parce qu'elle avait été très fortement bétonnée lors des restaurations faites à l'époque du mandat français, lorsque la France avait un mandat sur la Syrie après la Première Guerre mondiale, et les restaurations ont commencé dans les années 1930. Donc ce temple avait été consolidé, la porte avait été renforcée, par conséquent, elle a fort heureusement échappé, mais alors c'est d'autant plus tragique qu'on a maintenant cette espèce de porte toute seule au milieu du champ de ruines autour. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, ça m'a fait penser, vous savez, à ces photos qu'ont faites les journalistes après l'effondrement des tours du World Trade Center. Il y en avait une dont il restait une carcasse en métal. C'est un peu cette impression que ça donne à Palmyre de juste une carcasse qui reste du temple. Quelques temps après, Daesh a fait sauter des tours funéraires qui étaient là encore des monuments tout à fait emblématiques du site, celles qui étaient sur la butte de Belkis qui dominait le site et qui étaient des tours sur 4 ou 5 étages. Ils en ont fait sauter, je crois, 7 au total, dans divers secteurs, celle une partie sur la butte de Belkis, une autre partie dans une nécropole. Et puis, dernier dommage, c'est le Grand Arc de Triomphe qui était à l'entrée du site et qui, lui, peut-être sera relevable parce que il semble qu'il ait été détruit à coups de bulldozer. C'est-à-dire que les dernières photos que j'ai vues, les blocs sont à terre, mais il n'est pas à l'état de gravats comme les autres monuments. Donc ça, c'est peut-être un espoir de pouvoir éventuellement reconstruire ce grand arc. Mais enfin, il ne faut pas se faire d'illusions. Beaucoup de pierres auront été abîmées, beaucoup de choses ne seront plus restaurables. L'armée du régime de Bachar el-Assad occupait la citadelle reconstruite au XVIIe siècle, qui domine le site. Et de là, ils tiraient des obus, des roquettes sur tout ce qui passait dans le site en bas, parce qu'ils soupçonnaient qu'il y avait des rebelles cachés dans la palmeraie. Donc, on a déploré des colonnes qui ont été détruites, des morceaux de temples de Bel qui ont été touchés par des éclats d'obus, etc. Et puis, alors surtout, il y a les destructions invisibles, et ça, il faut vraiment en parler parce que évidemment on déplore la perte des monuments, mais ce qui est tout à fait terrible du point de vue de l'histoire, c'est que les armées de Bachar comme Daesh se sont livrées à un véritable pillage du site et notamment de tous les tombeaux souterrains, parce que dans ces tombeaux souterrains, ils espèrent trouver des bustes funéraires avec lesquels on obturait les emplacements funéraires des défunts. Et ces bustes, on en voit partout dans les musées. Tout le monde a vu un buste funéraire de Palmyre quelque part. C'est tout à fait reconnaissable au premier coup d'œil. Et ça se vend fort cher. Il y a beaucoup de collectionneurs qui sont intéressés par ça. Et donc, on assiste actuellement à un pillage en règle du site. J'ai encore reçu ce matin des photographies d'objets qui ont été retrouvés en Turquie, qui ont été retrouvés chez des antiquaires dans le monde entier. Donc là, on a vraiment une perte pour l'histoire qui est plus grave encore que la perte des monuments que l'on voyait, parce que les monuments que l'on voyait, ils ont été photographiés, ils ont été relevés, ils ont été mesurés. On a tous les documents sur ces monuments.
Donc on peut...
On pourrait les reconstruire éventuellement, refaire une 3D si c'est le choix qui est fait. Mais ce qui est pillé, c'est quelque chose qui est sorti de son contexte, qui n'a plus de sens pour l'historien, parce que on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas dans quel contexte ça a été trouvé, et ça c'est une perte terrible pour remettre dans l'histoire en quelque sorte ces objets dont on ne saura jamais la provenance. Et ça, c'est terrible. Mais il n'y a pas que Palmyre qui est soumise à ce régime. Tous les sites archéologiques de Syrie sont ravagés par des fouilles clandestines, par des pillages incessants. Je citerai l'exemple de Mari sur l'Euphrate, de Doura Europos sur l'Euphrate, d'Apamé dans la vallée de l'Oronte, dont les photos aériennes révèlent des catastrophes archéologiques. Palmyre, c'est un symbole double. C'est un symbole pour le régime de Bachar el-Assad, puisque si on connaissait un petit peu, les gens qui sont allés en Syrie ont dû voir ça, sur les billets de banque, vous aviez le grand arc de Palmyre, le plafond du temple de Bel, une monnaie représentant Zénobie, etc. Donc Palmyre était vraiment un site que le régime mettait en avant comme un site important. En plus, il y a eu aussi toute une récupération nationaliste de l'épopée de Zénobie, et donc c'était un site dont le régime était particulièrement fier de le montrer, de le mettre en avant, ce qui n'empêchait pas par derrière de faire des pillages et de le détruire d'une autre manière. Mais c'était un site emblématique. C'était en même temps pour les Syriens aussi un site dont ils étaient fiers, parce que d'abord ça leur procurer des ressources. Les gens de l'Oasis n'avaient pas grand-chose pour subvenir à leurs besoins. L'Oasis produit pas grand-chose. Et donc, le site de Palmyre est un site touristique. Il était classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Et donc, les touristes venaient tous à Palmyre. Je connais personne qui soit allé en Syrie sans être allé à Palmyre, évidemment. Ça avait d'ailleurs généré ces dernières années de développement d'hôtels, développement de petits restaurants, etc. Les gardiens, les guides, bref. Donc, il y avait toute une économie autour du site qui était extrêmement importante pour les gens. Et puis, pour les spécialistes de l'Occident, ou pour tous les amateurs d'antiquités ou de ruines, Palmyre était un site magnifique. Ce site au milieu du désert, avec cette oasis en bordure, qui était magique. Quand on arrivait à Palmyre et qu'on voyait émerger les ruines, quelle que soit l'heure du jour, on ne pouvait être que séduit. En plus, c'était un site qui était ouvert, où on pouvait se promener comme on voulait, quand on voulait. Et donc, toute cette symbolique, à la fois de l'Occident, qui aimait ce site, qui venait voir ce site, d'ailleurs les Syriens aussi, et toute la symbolique liée au régime a sans doute joué dans la volonté de le détruire. Oui, de nous faire un petit peu pièce en disant, voilà, vous y tenez, bon, très bien, on va le casser, on va le détruire. Ça, c'est clair. Et puis, en même temps, il ne faut pas se leurrer, ça cache aussi, évidemment, le trafic. Les destructions, pendant qu'on parle des destructions, on parle moins des trafics, on parle moins des pillages. Ce qu'il faudra faire, c'est une évaluation tout à fait précise des dégâts. Bon, voir qu'est-ce qui est reconstructible, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui a passé aux pertes et profits. Je crois malheureusement que le temple de Bel et le temple de Baal Shamin, comme les tours funéraires, on les retrouvera jamais comme avant. Est-il raisonnable d'envisager de reconstruire? Ça ne sera jamais que du neuf. Qu'est-ce qu'on va reconstruire? Le temple de Bel tel qu'il était quand il était intact au deuxième siècle? Ou bien est-ce qu'on va reconstruire le temple tel qu'il était juste avant la guerre? Est-ce que ça a un sens de reconstruire? Je ne sais pas. J'avoue que moi, je suis pour une reconstruction des choses qui sont en bloc, tombées à terre, qu'on les remonte, très bien. Quant à reconstituer intégralement des monuments qui sont à l'état de gravats, j'avoue que je ne partage pas cette idée-là. Mais c'est pas moi qui déciderai. Donc, je pense que. Et puis, est-ce que ce sera la priorité? Vous savez, quand la guerre va être terminée, il y aura tellement de choses à reconstruire en Syrie pour reloger les gens, pour redonner une vie normale à ce pays. Est-ce que les ruines vont être la priorité? C'est pas certain. Et qui va payer? Si ce sont les États du Golfe, ils auront peut-être pas trop d'état d'âme vis-à-vis des ruines et peut-être vont-ils faire de l'argent avec des immeubles, avec des villes modernes, etc. Là, j'avoue que pour l'instant, tant que la guerre n'est pas terminée, on ne peut pas se projeter complètement. On ne peut pas très bien savoir ce qui sera possible de faire ou pas. Alors, c'est un site qui est occupé certainement depuis très 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 longtemps, puisque des vestiges d'époque préhistorique ont été retrouvés sur le site, mais l'histoire, vraiment la documentation historique sur Palmyre, nous ne la connaissons qu'à partir du 3e millénaire. C'est-à-dire que le nom de Tadmor, qui est le nom araméen de Palmyre, on le trouve gravé sur des tablettes cunéiformes de la vallée du Moyen-Euphrate. On en trouve également en Cappadoce, et donc à ce moment-là, ces indices, on sait que la cité est déjà occupée par une population qui se livre probablement au commerce. Pourquoi les gens se sont-ils installés là? Parce qu'il y a une source qui n'est pas forcément une eau potable, mais qui a l'avantage de pouvoir irriguer l'oasis. Et donc, il y a là une possibilité donc de se sédentariser. Et en plus, la situation géographique du site fait que Palmyre se trouve à mi-chemin entre la Méditerranée et la vallée de l'Euphrate et la Mésopotamie. Et c'est ce qui va faire la fortune de Palmyre très rapidement, c'est cette capacité à maîtriser les pistes qui traversent le désert, direction de la Mésopotamie, puis ensuite en direction des ports de la Méditerranée, pour faire le transit de marchandises qui viennent de Chine, qui viennent d'Inde, qui viennent de l'Afrique, qui viennent de l'Arabie heureuse. Et l'un des témoignages très clairs de cette richesse de Palmyre remonte aux années 40 avant notre ère, où là, on sait que le triumvir Marc-Antoine, l'amant de Cléopâtre, qui se trouve en Orient à ce moment-là, vient faire un raid sur Palmyre pour piller. Donc, s'il vient piller, c'est que la ville est riche. Et cette ville de l'époque d'Antoine, elle existe déjà depuis au moins 2 siècles. On l'a retrouvée, cette partie de la ville, qu'on appelle la ville hellénistique, parce qu'on fait remonter ce début, en tout cas les premiers, les plus anciens des monuments de cette partie de la ville au 3e siècle avant notre ère. Mais c'est une ville qu'on ne voyait pas jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle était enfouie sous le sable, mais elle se trouvait au sud de l'agglomération romaine, dite romaine, dont les ruines étaient visibles. Donc, des fouilles récentes ont été faites par une équipe syro-allemande entre les années 1997 et 2010. Et ces fouilles ont mis au jour des vestiges de maisons avec des stucs, avec des peintures, avec des objets de la vie quotidienne, des objets du commerce, etc., des amphores, bref. Donc, ils montrent que la ville, dès le 3e avant Jésus-Christ, est déjà une ville puissante et importante. Mais cela, si vous voulez, le touriste de base qui allait à Palmyre ne s'en rendait pas compte parce que cette ville n'est plus visible. En revanche, ce qui était visible, c'est la partie de l'époque romaine. Et c'est au tournant de notre ère, au tout début du 1er siècle de notre ère, que les Palmyréniens entreprennent de construire une ville neuve, une ville moderne, à l'opposé de la ville précédente, donc de l'autre côté du lit du Wadi. Et cette construction correspond très certainement à la période où Palmyre est intégrée à l'Empire romain. Auparavant, le Palmyre, l'oasis, est autonome. Alors, je précise bien, ça n'est ni un royaume, ni une principauté, ni rien du tout. C'est un groupement de sédentaires. D'ailleurs, quand on parle d'eux, on parle du peuple des Palmyréniens et on ne parle pas du tout d'un royaume ou de quoi que ce soit. Mais au tournant du 1er siècle, tout début du 1er siècle de notre ère, Rome décide d'annexer cette partie-là de la Syrie, alors qu'elle possède déjà la partie occidentale.
Donc, mais pourquoi donc c'était un enjeu? Déjà, en vous entendant parler, Anice Arte-Foria, du pillage du Romain Marc-Antoine,
oui.
Bien sûr,
oui,
ça nous rappelle les pillages de Daesh, donc oui. On se dit que ce site était déjà emblématique. Emblématique de quoi?
Mais il était déjà riche, parce que, comme je vous l'expliquais, ils ont très vite profité de leur situation géographique pour faire le transit, le trafic de marchandises, à forte valeur ajoutée. Parce que les soieries qui arrivent de Chine, les pierres précieuses, les épices qui arrivent d'Inde, les perles qu'on pêche dans le golfe persique, dans l'île autour de l'île de Bahreïn ou du Qatar actuel, l'encens et la mire qui viennent de l'Arabie heureuse, qui viennent du Yémen, enfin de ces endroits-là, ou l'ivoire d'Afrique, tout cela à un coût extrêmement élevé. Et en plus, les Romains prélèvent des taxes très importantes sur ces produits, qui sont des produits de luxe. Et donc, les Palmyréniens se font cette spécialité de les transporter. Parce qu'en fait, les Romains sont incapables d'assumer ce trafic entre le désert et le golfe Persique. Pour deux raisons. D'abord, il faut traverser le désert. Et ça, c'est pas donné à n'importe quel soldat romain de savoir monter à dos de chameau ou de connaître les pistes, de connaître les puits, d'avoir les relations avec les nomades qui ont tendance à vouloir piller la caravane, bon, avec lesquels il faut avoir des relations diplomatiques. Et puis, dès qu'on passe l'Euphrate, dès qu'on traverse l'Euphrate à l'est, on entre dans un empire qui est l'ennemi des Romains. Dans un premier temps, ce sont les Parthes. Dans un deuxième temps, au IIIe siècle, ce seront les Perses. Mais à chaque fois, ce sont des empires qui sont opposés à Rome et qui se disputent, en quelque sorte, la frontière. Donc, les Romains ne peuvent pas pénétrer dans cette zone où ils ne sont pas les bienvenus. Et donc, les Palmyréniens vont servir d'intermédiaires parce que eux, ils savent très bien mener les négociations. Il y a même des Palmyréniens qui sont gouverneurs de provinces, de petites région dans le sud du golfe, dans le golfe Persique. Donc Rome a besoin des Palmyréniens pour assurer ce trafic de marchandises qui vont se vendre très cher à Rome, sur les marchés ou ailleurs.
Alors qui sont les Palmyréniens justement ?
Alors, les Palmyréniens, ce sont des Araméens, ils appartiennent à, ce sont des au départ peut-être des nomades, mais qui se sont très vite sédentarisés. Ils parlent l'araméen, ils parlent la langue courante qui se parle dans tout l'Orient à ce moment-là.
Ils connaissent le désert comme tous
ils
les
Bédouins. Ils connaissent
Bédouins.
Très bien le désert. Ils sont éleveurs de chameaux, évidemment. Et ils ont, d'ailleurs, le territoire de Palmyre, il ne faut pas l'imaginer comme un désert de dunes de sable comme le Sahara. C'est une steppe plutôt qu'un désert, même si en été c'est particulièrement sec. Mais en hiver, il peut y avoir une pelouse verte dans le désert parce qu'il y pleut. Il y neige aussi à Palmyre. Et quand on va à Palmyre, on allait à Palmyre en janvier ou en février, il y avait des grands lacs autour de l'oasis et de la pelouse verte sur les djebels autour. Donc le territoire de Palmyre s'étendant relativement loin vers les montagnes, vers les djebels, il pouvait élever des chevaux, élever des chameaux qu'il mettait au pâturage entre deux caravanes.
Et cette cité était déjà connue à l'époque des Romains?
Ah ben oui, les Romains la connaissent. De toute façon, c'est une cité qui est déjà riche et connue à l'époque hellénistique, donc 3e siècle avant notre ère. Donc quand les Romains arrivent à la fin du 1er siècle avant en Syrie et font annexent la province de Syrie, puis lorsqu'ils décident d'annexer Palmyre plus tard, donc au début du 1er siècle après...
Et pendant ce temps-là,
sûr,
la splendeur de Palmyre est toujours vivace.
Alors, la splendeur est de plus en plus importante parce qu'il commence dans les années 19... Après, il commence à rénover le temple de Bel. On a des textes, parce que, petite précision, si on connaît assez bien l'histoire de Palmyre à l'époque romaine, c'est qu'on a des quantités d'inscriptions, des centaines d'inscriptions qui sont gravées sur les colonnes, sur les consoles qui émergent des colonnes et sur lesquelles on plaçait des statues.
Et que disent ces inscriptions ?
Alors, elles sont, première caractéristique, elles sont bilingues, c'est-à-dire qu'elles sont toujours en grec et en araméen. Et pendant toute la période, Palmyre va conserver ce bilinguisme, ce qui est une particularité assez étonnante et assez particulière, puisque partout ailleurs, le grec a remplacé les langues locales, sauf à Palmyre, où l'araméen, en général, traduit le texte grec. Donc il y a toujours une inscription bilingue, et même parfois uniquement en araméen quand c'est dans la sphère privée. C'est-à-dire sur les tombeaux, par exemple, on a plus souvent des inscriptions uniquement en araméen que bilingue. Mais ça n'exclut qu'il peut y avoir les deux aussi dans les tombeaux. Et donc, ces gens, on les connaît assez bien, grâce à ces centaines d'inscriptions, on a presque 600 inscriptions en grec et on en a plusieurs milliers en araméen. Donc on a une documentation entre, on va dire, le 1er siècle avant et le 7e siècle après, jusqu'à la conquête musulmane. On a une quantité d'inscriptions qui, à partir desquelles on peut reconstituer un certain nombre de connaissances sur la société, sur le commerce, sur la religion, sur les monuments, les constructions, etc.
Parlons de civilisation, de culture et de religion à Palmyre.
Alors, les palmyréniens sont évidemment des polythéistes, c'est-à-dire qu'il y a plus de 60 dieux qui sont honorés à Palmyre, et des dieux d'origine extrêmement diverse. C'est-à-dire qu'il y a des dieux qui sont originaires de l'oasis même, bon, qui sont des dieux indigènes, on va dire. Ils ont adopté des dieux mésopotamiens, notamment Bel. Alors, à l'origine, c'était Bol, c'était un dieu local, et il s'est assimilé à un dieu mésopotamien, Bel, d'où le nom ensuite de Bel. Et puis, alors, des acolytes divers autour de ce dieu principal, qui est le dieu principal de l'oasis. Ils ont adopté des dieux sémitiques de l'Ouest, comme Baal Shamin, par exemple, dieu de la pluie, de l'orage, etc. Ils ont adopté des déesses syriennes, comme des déesses de la frange autochtone, des Bédouins, comme Alat, par exemple, qui par la suite va s'assimiler à Athéna, parce qu'elle a un peu les mêmes caractéristiques de déesse guerrière. Mais ils vont aussi adopter des dieux grecs purement et simplement. Par exemple, Héraclès est honoré en tant que tel, tout nu, avec sa peau de lion, sa massue, on le voit représenté.
Est-ce que je peux conclure, Annie Sartfouria, que cette cité est une cité cosmopolite, que les marchands, du coup, pouvaient s'installer, pouvaient s'installer à Palmyre?
Oui, on a la preuve que d'abord il y a des gens qui viennent d'Italie, des administrateurs impériaux qui sont à Palmyre, ne serait-ce que les agents du fisc hein, qui viennent prélever les impôts. Il y a des soldats romains à Palmyre. Il y a un camp au nord-est du site. Par la suite, il y a une légion qui, au 4e siècle, qui va venir s'installer. Donc, on se croise effectivement à Palmyre un certain nombre de gens d'origines diverses. C'est absolument vrai, oui. C'est cosmopolite à ce sens-là, si vous voulez, oui.
Et comment Palmyre va passer sous la coupe des Romains? C'est par la force
Non, pas du tout. Ouais. Ça c'est apparemment, nous n'avons pas de documents qui nous disent qu'il y ait eu des combats ou quoi que ce soit. Non, je pense qu'en fait, les Palmyréniens ont été très contents d'entrer dans l'Empire romain parce que ça a accru leur fortune. Parce que du coup, ils ont eu face à eux un empire qui s'ouvrait pour leurs activités commerciales. Donc forcément, non, ils ont été certainement très heureux. Et le fait qu'ils aient construit une ville qui ressemble à d'autres villes du monde romain ou du monde gréco-romain prouve qu'ils ont parfaitement intégré cette civilisation et ses valeurs.
Thank you.
Palmyre se développe du point de vue urbain à partir du début de notre ère, début du premier siècle de notre ère, par donc des réfections de temples d'abord, pour leur donner un habillage gréco-romain, c'est-à-dire pour que ces temples ressemblent davantage à, on va dire, la culture commune qui est celle du Proche-Orient et du Proche-Orient romain. Donc le temple de Bel, le temple de Baal-Shamin, lui aussi, nous avons un texte qui est gravé sur, qui était malheureusement gravé sur une des consoles du portique de façade, qui nous expliquait que ce temple avait été rénové et embelli par un citoyen de Palmyre qui s'appelait Malé Agrippas en l'année 130 après Jésus-Christ, parce qu'il avait profité de l'occasion de la venue de l'empereur Adrien. Adrien est venu à Palmyre en 130 et il a dû être très très bien reçu par les Palmyréniens, par les notables riches qui ont pourvu à tous ses besoins et aux besoins de sa suite. Notamment, le dénommé Malé Agrippa avait fourni l'huile pour que on puisse aller dans le gymnase pour s'exercer, bon, etc. Donc, on a des textes qui nous montrent donc comment progressivement cette ville s'est développée sur le plan monumental. Les grandes avenues à colonnades, elles se dotent de grandes avenues à colonnades, la colonnade transversale, la grande colonnade qui traverse le site de part en part et qui aboutit au Grand Arc et qui devait se prolonger encore au-delà vers le temple de Bel. C'est la construction d'un théâtre, c'est la construction d'une grande place de commerce qu'on appelle une agora, qui est une grande place fermée avec des portiques à l'intérieur, avec de multiples colonnes, des statues, des bienfaiteurs de la cité. Donc c'est une ville qui va se doter de tous les monuments nécessaires à une vie urbaine agréable, des thermes également, des fontaines publiques, etc. Donc c'est la ville romaine, d'époque romaine, qui est construite donc entre le premier siècle, le début du premier siècle de notre ère, et on va dire le début du troisième siècle. Après, nous n'avons plus de traces de construction ultérieure. D'ailleurs, même à l'époque de Zénobie, qui pourtant a fait briller Palmyre, on ne peut pas lui attribuer de construction particulière. Donc, il semble que les constructions se terminent, disons, au début du IIIe siècle, par le Grand Arc. Mais bon, la ville avait déjà pratiquement tous les monuments nécessaires. Alors, il n'y a qu'un monument que l'on n'a pas retrouvé. On n'a pas retrouvé de stade, d'hippodrome à Palmyre. Et on se pose la question de savoir si ça n'est pas là la limite de l'hellénisation de cette cité et de ses habitants. Parce que se produire dans un stade pour des concours, ça impliquait que l'on soit nu, puisque les concours à la grecque se pratiquent nus. Et peut-être y avait-il là une réticence de la part de la population. On n'a pas retrouvé le stade, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Il restait 80% du site à fouiller encore au moment où la guerre a éclaté. Donc on va peut-être le trouver un jour, de même qu'on va peut-être retrouver l'amphithéâtre dont une photo aérienne semble témoigner de l'existence. Mais là encore, c'est une photo aérienne, il faudrait faire des fouilles, et là, pour l'instant, évidemment, ça n'est pas possible. Donc on a affaire à une ville qui prend l'aspect de ces belles villes de l'Orient, comme Éphèse, comme Antioche, qui se dotent de tous les monuments nécessaires à une vie agréable. Et tout cela est payé par les Palmyréniens. C'est-à-dire que l'empereur n'a pas mis la main à la poche du tout, ça n'était pas l'habitude d'ailleurs. Donc les Palmyréniens, eux-mêmes, par le biais de leurs revenus, de leur fortune, et ce sont souvent les plus riches qui sont évidemment sollicités pour participer à ça, ce sont eux qui financent les constructions de monuments. Alors parfois la totalité, parfois des petits morceaux, parfois c'est une colonne, deux colonnes, etc. Mais ce sont les habitants localement qui ont donné cet aspect magnifique à la ville.
Quand ce sont les habitants localement, ça veut dire que les gens n'arrivaient pas de partout de l'Empire romain pour s'installer à Palmyre, pour profiter de la splendeur économique de Palmyre.
Oui, il pouvait y avoir des gens qui venaient de l'extérieur, mais il y avait une limite, si vous voulez, c'est que Palmyre était une cité. Et être une cité, ça veut dire qu'on a des institutions et que pour participer à la vie de la cité, il faut en être citoyen. Or, sont citoyens de Palmyre, les gens qui sont nés à Palmyre, de parents citoyens déjà de Palmyre, et ceux qui éventuellement peuvent acquérir par honneur la citoyenneté palmyrénienne. Mais ce sont les citoyens de la cité qui sont les organisateurs, on va dire, de la politique locale. C'est-à-dire qu'il y a un conseil municipal, royale, il y a des magistrats qui gèrent la cité dans les différents domaines. Il y a quelqu'un qui gère le marché, il y a quelqu'un qui va gérer le gymnase, il y a quelqu'un qui va gérer tout ce qui relève de la gestion d'une cité. Donc, si vous voulez, tous ceux qui ne sont pas citoyens peuvent participer s'ils veulent, mais il y a quand même l'organisation locale qui prend les décisions lors du conseil municipal et qui les fait appliquer ensuite par les magistrats.
Et Rome dans tout ça ? Est-ce que Rome a son mot à dire ?
Ah mais absolument, parce que Palmyre est une cité qui appartient à l'Empire romain, donc le gouverneur de la province de Syrie a autorité, bien entendu, pour faire appliquer les décisions impériales, bien sûr. La cité se gère dans son petit domaine local comme elle veut, mais dans le respect, évidemment, des lois impériales. Et le gouverneur aurait toute latitude pour obliger la cité à faire les choses si elle ne le veut pas. Par exemple, payer les impôts, il a absolument payer les impôts à Rome. Tant que la cité n'a pas obtenu le statut favorable de colonie romaine, ils doivent des impôts. Alors, c'est vrai qu'ils vont obtenir ce statut particulier de colonie romaine, colonie de droit romain, au début du IIIe siècle, et ils vont l'obtenir avec ce qu'on appelle, je suis désolée d'utiliser du jargon, mais ce que les historiens appellent le jus italicum, c'est-à-dire le droit italique qui assimile Palmyre au droit de l'Italie, ce qui veut dire que les citoyens deviennent d'abord tous citoyens romains et ne payent plus les impôts, l'impôt foncier ou l'impôt par tête dû à Rome.
Je suppose que ce sont les Palmyriens qui se sont battus pour ce statut.
Alors, ben, évidemment, c'est un statut privilégié. Par conséquent, toute cité aspire à avoir un privilège qui va la distinguer des autres. Mais à l'époque où Palmyre reçoit ce privilège, déjà, tous les habitants sont de l'Empire, quand ils étaient libres, sont devenus citoyens romains, en 212. Le Ius Italicum, c'était un bonus supplémentaire, parce que si on avait donné le Ius Italicum à tout le monde, l'État n'aurait plus fonctionné, il n'aurait plus eu d'argent. Donc, le privilège supplémentaire qu'obtient la colonie, évidemment, la cité se bat pour l'obtenir. Alors, on fait des démarches auprès de l'empereur, on écrit, on se fait recommander, etc. Mais au moment où ça se produit, c'est dans une situation historique un peu particulière, ça se produit sous un empereur dont la famille est originaire de Syrie. Donc ça se produit soit sous Sévère Alexandre, soit sous Elagabal, soit sous Sévère Alexandre,
qui sont les descendants. Vous voulez dire que c'est à la fois politique et par alliance.
Oui, voilà, parce que c'est un petit peu compliqué, mais l'empereur Septime Sévère va épouser en deuxième noce une femme qui est la descendante des grands prêtres d'Émèse, de la ville d'Émèse, qui est pas très loin de Palmyre, hein, on est à 100 km au nord-ouest de Palmyre, et cette femme, c'est l'impératrice Iulia Domna, qui va donner naissance à Caracalla et à Geta, les deux fils donc issus de ce mariage. Et elle est en même temps la sœur, elle a une sœur qui elle-même a deux filles, dont les fils vont devenir empereurs à leur tour. Donc on a là une espèce de dynastie, on va dire, africano-syrienne, puisque Septime Sévère, lui, est originaire d'Afrique, mais Iulia Domna, elle est originaire d'Émèse, elle est syrienne. Et donc les Sévères ont eu des liens un peu particuliers avec la Syrie, d'autant que Septime Sévère, quand il a pris le pouvoir, il a été contesté par un compétiteur, et que Palmyre avait pris son parti. Donc, vous voyez, il y avait des liens politiques, des liens qui unissaient, on va dire, Palmyre avec la dynastie sévérienne. C'est dans Palmyre que va émerger une force de défense de l'Empire, parce que les empereurs sont occupés sur le Rhin, sur le Danube. Toutes les frontières sont attaquées en même temps au IIIe siècle. Et donc les empereurs passent leur temps à courir d'un point chaud à l'autre. Et l'Orient va se trouver à un moment complètement livré à lui-même, faute d'avoir des forces suffisantes pour le défendre. Et c'est de Palmyre que va venir une partie du salut de l'Empire sous l'autorité de Odaïnat, d'un notable palmyrénien, qui va très vite gravir les échelons dans les de responsabilité. Il est promu sénateur de Rome, il devient consul, l'empereur va lui conférer la possibilité de mener les troupes, non seulement qu'il peut lui recueillir autour du territoire, dans le territoire de Palmyre, mais les troupes romaines aussi. Et grâce à Odaenathe, l'Empire romain va réussir à contenir les avancées des Perses qui viennent piller régulièrement la Syrie. Odaenathe va prendre la tête d'une armée pour repousser les Perses. Il y parvient d'ailleurs. Il va même poursuivre l'empereur des Perses jusqu'à Babylone. Et il va du coup s'arroger le titre de l'empereur des Perses qui est roi des rois. Mais Odaenathe est assassiné peu de temps après, dans des circonstances assez mystérieuses. On ne sait pas très bien si on avait peur qu'il prenne trop de puissance ou si c'était simplement une querelle de famille. Les sources ne sont pas très précises là-dessus. La seule chose, c'est que après la mort d'Odaenathe et de son fils aîné, qui combattait avec lui, c'est sa femme, Zénobie, qui va relever le défi, en quelque sorte, pour le compte de leur plus jeune fils, qui s'appelle Wabalathe. Et dans un premier temps, elle va faire en sorte que le jeune fils récupère tous les titres de son père, ce qu'elle parvient effectivement sans doute à obtenir de l'empereur, parce que l'empereur n'a pas les moyens d'intervenir en Orient à ce moment-là. Mais elle a des ambitions beaucoup plus importantes que son mari.
D'abord, s'affranchir de Rome.
Non, elle cherche pas à s'affranchir de Rome. Elle cherche tout simplement le pouvoir sur l'empire. Elle cherche tout simplement à devenir impératrice. Et elle ne voit pas pourquoi ça pourrait pas être elle, dans la mesure où elle a remporté des victoires sur localement. Elle a étendu son influence sur l'ensemble de l'Orient. Elle a mis sous sa coupe l'intégralité des provinces de Syrie, la province d'Arabie, la province d'Égypte. Ses troupes sont en train de progresser en direction des détroits. Ils sont déjà à Ankara, enfin en Syre dans l'Antiquité. Donc une grande partie de l'Asie mineure est sous son autorité. Et il est vraisemblable qu'elle a en projet de poursuivre jusqu'à Rome pour se faire reconnaître officiellement comme impératrice par le Sénat de Rome. Et donc elle va faire proclamer son fils empereur. Elle, impératrice-mère, en quelque sorte, parce que c'est un jeune homme, Wabalathe, et ils vont faire frapper des monnaies, comme les empereurs romains, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, elle entend absolument assumer.
Mais alors, comment Rome va réagir?
Ah ben, Rome, dans un premier temps, dit pas trop grand-chose, parce que les empereurs ont autre chose à faire, mais en 270, alors qu'elle a déjà commencé à étendre son influence, arrive au pouvoir en Occident, un nouvel empereur qui s'appelle Aurélien. Et Aurélien est un homme qui n'est pas prêt à négocier, qui est un homme fort. Il veut pas partager le pouvoir, c'est clair. Parce que Zénobie et son fils ont essayé de ménager un petit peu l'ambiguïté en disant, au fond, on pourrait peut-être se partager le pouvoir, nous l'Orient, toi l'Occident. On a vu des monnaies où ils étaient tous les deux, Aurélien et Wabalathe. Mais en 271, ils ont franchi le pas. Wabalathe est seul représenté sur les monnaies, Zénobie est seul sur les monnaies. Donc il s'assume absolument empereur et impératrice. Les monnaies sont claires là-dessus. Les bornes milliaires qui sont sur les routes, qui sont des objets de propagande impériale et qui manifestent vraiment le pouvoir, sont rédigées exactement comme pourrait l'être. On remplace le nom de l'empereur précédent par Wabalathe, etc. Donc ils assument absolument. Le problème, c'est qu'Aurélien donc n'est pas décidé à céder ni à partager, et Aurélien, à la tête de ses troupes, vient en Orient. Il va battre les troupes de Zénobie en trois batailles. Il va se présenter à Palmyre, qui n'est pas fortifié du tout, qui n'a pas de rempart. Visiblement, il y a un parti à Palmyre qui est hostile à Zénobie, qui va négocier la reddition. La ville n'est d'ailleurs pas détruite, contrairement à ce que l'on dit. Les archéologues n'ont rien retrouvé qui manifeste un incendie ou une destruction violente, etc. D'ailleurs, il suffit de voir les ruines actuelles, enfin, telles qu'elles étaient.
Donc, c'est une parenthèse, bon. C'est une utopie de Zénobie.
Alors, oui, elle a cru qu'elle pouvait, elle aurait pu. D'ailleurs, c'était une utopie plus ou moins, parce qu'il y a eu d'autres empereurs issus de l'Orient avant elle. Et après tout, il n'y a pas de légitimité du pouvoir à Rome à ce moment-là. C'est celui qui remporte la victoire, c'est celui celui qui est proclamé par ses troupes. Donc après tout, pourquoi pas elle et Wabalat plutôt qu'Aurélien ou un autre, etc. Donc elle tente l'aventure. Le problème, c'est que elle va tomber sur plus fort qu'elle et que elle va être capturée, emmenée à Rome probablement pour figurer au triomphe d'Aurélien, et qu'à partir de ce moment-là, alors la ville va se révolter. En 273, Aurélien est obligé de revenir. Il est déjà presque en Occident. Hop, il revient pour mater à nouveau la rébellion qui a surgi dans son dos. Et puis, à partir de ce moment-là, Palmyre va rentrer dans le rang. On n'entend plus parler de volonté, de puissance ou quoi que ce soit. Mais la ville, pour autant, n'est pas du tout détruite, n'est pas du tout abandonnée. Au contraire, elle va faire partie de tout un système de défense de l'Orient. Dioclétien, début du IVe siècle, va y installer une légion avec un camp. La ville continue à construire, à restaurer les monuments. On a des inscriptions qui le prouvent. Le christianisme va également se développer à Palmyre. Il y a des églises. Nos collègues archéologues polonais en ont retrouvé plusieurs. Les temples vont se transformer en églises. Et puis, quand la conquête musulmane va survenir en 634, les musulmans vont investir la ville. La ville va se transformer en ville musulmane. Les temples qui étaient devenus des églises vont devenir des mosquées. Mais pas de destruction pour autant. Au contraire, d'ailleurs, les émirs de Damas au XIIe siècle vont fortifier le temple de Bel en récupérant des colonnes, des choses qui étaient dégradées, parce que bon, le site s'est quand même dégradé un peu, pour construire des bastions défensifs autour du temple. Et du coup, la ville va se réduire à l'enceinte du temple de Bel. C'est-à-dire que quand les voyageurs vont redécouvrir Palmyre au milieu du XVIIe siècle, 1678, les premiers qui vont occidentaux qui vont redécouvrir Palmyre donc au XVIIe siècle vont trouver une vingtaine de familles dans des huttes en terre qui sont tous concentrés dans l'enceinte du temple de Bel, protégés par le bastion qui est autour. Et puis, le site est parcouru périodiquement par des bédouins qui viennent y faire paître les troupeaux, etc. Donc,
mais ce n'est plus le poumon économique de l'époque.
Ah non, plus du tout. La ville a complètement... Elle est concentrée autour de son oasis et puis c'est tout. Donc, il y a des pasteurs, des bédouins qui viennent, etc., qui d'ailleurs défendent assez farouchement le site. Les premiers voyageurs qui viennent... risquent leur peau. Parce que les Bédouins pensent que ces Occidentaux vont venir leur voler leur trésor. Les voyageurs, là je prépare un livre justement sur la découverte archéologique de la Syrie, donc j'ai lu beaucoup de voyageurs, et ils disent tous, les Bédouins nous posent qu'une seule question, toi tu sais lire ce qui est écrit sur les colonnes, donc tu vas trouver les trésors. Donc ça les inquiète beaucoup. Et puis, c'est un monde, ce monde des Bédouins, un petit peu rebelle aux émirs d'Alep, de l'Empire ottoman, qui domine l'Orient, et ils tiennent farouchement à leur indépendance. Et donc, ils ont peur que ces Occidentaux montrent où est la route pour venir les châtier ou leur créer des problèmes. Donc, ils sont pas très, très chauds, si je puis dire, pour voir arriver les Occidentaux. Et souvent, ils les rançonnent très, très fortement. Et puis, c'est très dangereux parce que il y en a peut-être certains dont on n'a pas eu le récit pour nous l'expliquer, mais qui se sont peut-être fait tuer parce que les menaces étaient très, très précises. Donc, voilà. Donc, les Occidentaux vont découvrir ce site magnifique parce que il est resté quasi intact. Il y a des forêts de colonnes, ils sont tous émerveillés. Palmyre, on a toujours su où c'était. Il y a toujours eu des contacts entre les émirs de Palmyre et Alep, etc. Donc, ils viennent de temps en temps vendre des produits. Ils vendent notamment de la cendre pour fabriquer du savon à Alep. Donc, une plante dans le désert qui sert à fabriquer le savon à partir d'une cendre très particulière. Donc, il y a toujours des contacts, mais ils ne veulent pas que les Occidentaux y aillent. Donc, il a fallu très longtemps avant que les premiers puissent vraiment aller à Palmyre, faire des dessins, relever les les monuments, etc.
C'est quoi le 19e siècle?
Alors, c'est fin du 17e, mais c'est surtout à partir du début du 18e siècle, avec les voyages de Wood et Dawkins, deux Anglais, et puis le voyage du Français Cassas, qui va faire de magnifiques planches des monuments de Palmyre. Et alors, tout ça, ça va ouvrir la voie, effectivement, à la découverte, et ils vont tous se précipiter à la suite de ça à Palmyre pour aller voir ces magnifiques ruines. Ça n'empêche que c'est toujours dangereux, hein, parce qu'au début du 19e siècle, il y a encore un voyageur anglais qui ne paye pas suffisamment cher les bédouins du coin et qui va se faire mettre sous clé dans le temple de Bel, et il a interdiction de sortir, ils l'ont expulsé rapidement. Donc ça ne devient véritablement fréquentable, on va dire que dans les années 1860. Alors, la population s'est considérablement réduite et confinée dans l'enceinte du temple de Bel. Et c'est là, d'ailleurs, que vont la trouver les archéologues français de l'époque du mandat, quand, en 1929, ils décident de restaurer le temple de Bel. Donc, ils évacuent à ce moment-là la population qui était dans l'enceinte. Là, l'ensemble de l'enceinte était quasiment occupé. La population avait cru depuis le XVIIe siècle. Et un architecte français, d'ailleurs, va construire une ville nouvelle à l'extérieur du site antique pour reloger la population qui a été expulsée de l'enceinte du temple. Et à ce moment-là, les archéologues français vont procéder à des fouilles et à des restaurations du temple. Juste une petite remarque, on se demande si la population était restée dans l'enceinte du temple, parce qu'on avait quand même des maisons qui dataient du XVIIe, du XVIIIe siècle. Certes, c'était des huttes en terre, mais enfin, ça a une valeur aussi sur le plan patrimonial. Peut-être que Daesh n'aurait pas fait sauter le temple, il n'aurait peut-être pas osé faire sauter aussi le village. On ne sait pas. C'est une question qu'ont posé des collègues archéologues en disant, dans le fond, on a peut-être été responsable en évacuant la population du temple. On a favorisé peut-être sa destruction par Daesh, mais enfin, on ne pouvait pas le prévoir, évidemment, à cette époque-là. Les Syriens ont beaucoup œuvré à la restauration, à la préservation des monuments. Khalil al-Assad, le directeur du site qui a été sauvagement assassiné par Daesh, avait beaucoup œuvré dans ce sens. Il avait accueilli de façon très généreuse et ouverte les équipes d'archéologues du monde entier qui venaient pour des missions à Palmyre. Donc il y avait plusieurs nationalités d'archéologues qui ont travaillé à Palmyre.
Dans des Syriens ?
Des Syriens. Alors c'est toujours maintenant, depuis quelques années, c'était toujours des missions Syro quelque chose. C'est-à-dire que les Syriens tenaient à ce qu'on associe évidemment leurs archéologues.
Des archéologues, d'accord.
Oui, bien sûr.
Pas seulement des représentants de l'État policier.
Ah ben ça, de toute façon, toute mission archéologique était surveillée par des représentants des Mourabarat, des services secrets. Il n'est pas exclu que peut-être certains archéologues aient été eux aussi appartenus aux services secrets. Vous savez, en Syrie, les choses étaient... C'est un peu l'Allemagne de l'Est. Tout le monde dénonçait tout le monde. Tout le monde était sollicité pour raconter ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait vu, etc. Donc, vous savez, la frontière était très ténue entre peut-être certaines personnes qui venaient fouiller et puis qui donnaient des renseignements par ailleurs. Ils y étaient parfois obligés. Palmyre, pour le régime des Assad, mais peut-être même déjà avant, c'est, comment dire, Zénobie est une espèce d'héroïne nationale qui a cherché à secouer le joug des méchants colonisateurs. Bon, c'est pas du tout ça, c'est encore très vivace dans certaines pièces de théâtre, opéra, etc., qui peuvent se monter ou se développer actuellement en Orient. C'est pas du tout ça, j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, peut-être un peu trop rapidement, mais néanmoins, c'est comme ça qu'ils la vivent, parce que il y a une espèce d'imagerie, une espèce de fierté nationale qui a été exaltée par des nationalistes locaux. Et parmi eux, le général Tlass, qui a commis quelques ouvrages sur Zénobie et sur Palmyre, qui est le chantre de cette idéologie, si vous voulez. Pour lui, la période romaine, c'est une période noire, c'est une période abominable, affreuse. Quand on voit le site de Palmyre, on a du mal quand même à imaginer que c'était si noir que ça, et si abominable et affreux. Mais il y a cette espèce d'idée que Zénobie a secoué le joug romain. Ça. Ce qui est idiot, parce qu'au fond, c'est beaucoup plus valorisant de penser qu'elle a voulu être impératrice de Rome que de vouloir simplement créer un petit royaume local à Palmyre. Mais bon, c'est comme ça, on n'arrive pas à secouer, si vous voulez, ces scories qui ont été forgées par une histoire nationaliste. Et ça, c'est dommage.
Et toute une époque voilà. Anticolonialiste qui a porté le panarabisme.
Hein. Voilà, il y a ça aussi. Donc, si vous voulez, les manuels d'histoire représentent Palmyre et Zénobie de manière sans doute très biaisée par rapport à la réalité à laquelle se rallient les scientifiques ou les savants qui ont travaillé sur le site.
Mais même en aparté, quand vous aviez des discussions avec les experts, les scientifiques syriens, c'était cette version officielle qui revenait.
Ah oui, on a parfois beaucoup de mal à leur faire admettre que on peut avoir une autre vision des choses. D'ailleurs, souvent, ça tient aussi à leur culture. La chose écrite, elle n'est pas contestée. Donc, on a dit ça un jour. Donc, vous venez avec d'autres arguments, essayez de leur faire comprendre que en 100 ans, 150 ans, l'histoire se modifie parce que chaque fois qu'on a un document nouveau, on réévalue ce que l'on croyait, etc. C'est extrêmement difficile à faire passer.
Cette émission consacrée à Palmyre en passant par franceculture.fr. Tout est à votre disposition aux pages d'Un autre jour est possible et de Tête chercheuse. Tout, c'est-à-dire soit l'écoute en ligne, soit le podcast. On se retrouve samedi prochain pour une autre émission consacrée aux têtes chercheuses d'Un autre jour est possible. Et samedi prochain, je serai avec l'ornithologue Philippe Dubois. Belle matinée d'été sur France Culture. Thank you.